Juste quelques éléments pour pouvoir aborder la question de l'élevage. En fait, j'ai placé mon intervention dans le cadre du colloque, c'est-à-dire essayer de bien me placer dans la question de la transition vers l'agroécologie. Enfin, je précise que j'ai beaucoup travaillé dans l'agriculture bio, et donc je connais, voilà, je suis agronome et fils de paysan, ancien conseiller agricole en élevage conventionnel avant de travailler dans la bio. Et auteur d'un livre sur, qui s'appelle L'agriculture biologique pour nourrir l'humanité chez Actes Sud, que je vous recommande bien sûr. Alors, je ne sais pas comment on met. Ah oui, comme ça. Donc, bon, ça s'en fiche. D'abord, juste, donc, puisque je me place dans ce cadre, la question de l'agroécologie et de la transition, il y a quand même la sempiternelle question de vocabulaire qui est importante. Je vais pouvoir être rapide parce que je me retrouve dans des choses qui ont été dites déjà, mais c'est, à mon avis, indispensable de le rappeler. L'agroécologie, telle que. Quand j'utilise ce terme, pour moi, je me retrouve complètement dans la définition qu'a pu donner par exemple Marc Dufumier, mais que je vais repréciser, c'est-à-dire construire des agroécosystèmes. Mais qu'est-ce qu'un agroécosystème ? Parce que Marc en a plus parlé sous l'angle, finalement, réunir à l'agronomie telle qu'elle aurait dû être, avec les connaissances et l'approche écologique. Moi, je ramène un troisième domaine, enfin, c'est pas moi qui l'invente, hein, qui est absolument fondamental, qui sont les humains. Un agroécosystème, c'est la synthèse entre un écosystème, c'est-à-dire le sol, hein, c'est bien du sol que part l'agriculture, bien sûr les haies, les arbres, enfin bref, tout ce qui constitue un écosystème, et comme l'a dit, je crois, François Léger tout à l'heure, les oiseaux, les insectes, les animaux, ils se baladent d'un système à l'autre. Donc tout le système naturel autour de la ferme est en interaction avec la ferme. C'est évidemment des plantes cultivées, des animaux domestiques. Parce que s'il n'y a pas de plantes cultivées d'animaux domestiques, on pratique la cueillette et la chasse, on ne pratique pas l'agriculture. Et ce sont des sociétés humaines. Et les sociétés humaines, c'est vraiment absolument fondamental. Parce que on ne peut pas parler d'agroécologie si on ne parle que d'agronomie au vieux sens réductionniste du terme, c'est-à-dire la technique sur le territoire. L'agronomie, la vraie agronomie, elle prend forcément en compte les sociétés humaines, parce que une agriculture, il faut peut-être un peu le rappeler, c'est une agriculture. Ce sont des savoirs paysans, ce sont des actes de paysans d'une société sur un territoire. Et donc, les savoirs paysans, et j'insiste bien sur la notion de savoir, c'est pas des savoir-faire empiriques. Je sais pas si vous avez déjà été chez des paysans ou dans des communautés paysannes un peu partout dans le monde, les paysans expérimentent, bien entendu, selon des procédés expérimentaux parfaitement rationnels. C'est pas parce que c'est pas l'INRA qui mène des expérimentations que ça ne sont pas des expérimentations. Ce sont donc bien des savoirs, et c'est pas parce qu'ils sont transmis oralement et pas par écrit que c'est pas des savoirs transmis. Et donc, bon, je passe rapidement sur cet aspect-là, mais c'est quand même très important de bien tenir compte de ces trois domaines, parce que ça conditionne tout le reste, et ça conditionne finalement l'ensemble de la question de ce qu'on peut appeler l'agroécologie. Et notamment, quand on parle par exemple des semences, je crois que c'est Olivier de Scooter ce matin qui a évoqué la question des semences paysannes, des variétés cultivées en agroécologie doivent forcément être en coévolution avec leur écosystème et leur société, et leurs paysans. Une évolution, une sélection hors contexte paysan, ça n'a pas de sens. C'est un total contresens. Alors, pourquoi j'insiste sur ces définitions ? C'est que François Léger disait tout à l'heure que ce n'était pas forcément nécessaire de définir, enfin qu'il ne fallait pas se perdre dans les questions de définition. Je ne pense pas comme lui. Je pense qu'il est absolument fondamental de définir de quoi on parle. Parce qu'à partir du moment où on parle d'un agroécosystème tel que je le définis ici, eh bien, il va de soi, comme l'a dit tout à l'heure, la personne qui fera la, dont j'ai perdu le nom, pardonnez-moi, qui va nous faire la conclusion, les OGM sont en totale contradiction avec une approche agroécologique. Les OGM sont en totale contradiction avec la notion de coévolution des plantes, avec leur écosystème et avec les humains. Donc, parler d'OGM en agroécologie, comme font certains, parce que si on ne définit pas, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Lorsque certains prétendent mettre des OGM dans l'agroécologie, c'est un total contresens. Enfin, en tout cas, dans certaines définitions. Donc, il faut bien savoir de quoi l'on parle. Et puis, petit détail qui lui non plus n'est pas anodin, si on veut ensuite parler de qu'est-ce qu'on peut faire et comment on y va, et puis aussi avec qui on travaille, c'est que tout ce que je viens de dire là, ben, c'est l'agriculture biologique. Enfin, vous allez me dire, non, c'est pas le règlement européen sur l'agriculture biologique. Enfin oui, ok, le règlement européen sur l'agriculture biologique, c'est un truc qui existe depuis quelques années et qui est limité à une petite région du monde. Il faut regarder un petit peu l'agriculture biologique dans sa dynamique générale. L'agriculture biologique, et ça, j'insiste là-dessus, parce que là encore, c'est un aspect fondamental pour éviter des malentendus dans ce qu'on a à faire, ça n'est certainement pas la suppression des produits chimiques de synthèse. Contrairement à ce que certains, comme Bruno Parmentier, essayent de faire croire. Parce qu'effectivement, la suppression des produits chimiques de synthèse, sans avoir de réflexion agro-systémique autour, ça conduirait à des impasses, à des baisses de rendement. Certes, mais c'est pas comme ça qu'a été définie la bio. Pfeiffer, en 1937, le premier à avoir vraiment écrit sur l'agriculture biologique, c'est vraiment le premier fondateur, parce que Steiner n'avait pas vraiment écrit, a très clairement expliqué que l'objectif de l'agriculture biologique, c'était de reconstituer un organisme agricole, c'est-à-dire des relations fondamentales, des relations entre un écosystème, un agrosystème et des humains. Je passe sur les autres, mais pour vous dire que toutes les dimensions, notamment du sol, et toutes les dimensions de synthèse entre les savoirs agricoles et les savoirs scientifiques, sont au cœur des écrits des fondateurs de l'agriculture biologique, comme Sir Albert Howard également. Donc la suppression de la chimie, c'est un moyen pour reconstruire un agroécosystème. Et ça, c'est important de l'avoir en tête, parce que si on oublie ça, eh bien, on va se retrouver avec une opposition entre une prétendue agriculture biologique, qui sera en fait une agriculture conventionnelle sans chimie, et une prétendue agroécologie dont on ne saura pas très bien ce que c'est, dont certains feront quelque chose de génial, et d'autres prétendront qu'on peut mettre des OGM là-dedans. Alors, maintenant, si on décide d'aller vers la reconstruction d'un agroécosystème, ben on fait comment? Je vais décliner ça par l'élevage rapidement. Mais on pourrait penser que pour passer de l'un à l'autre, ben, y a une évolution continue. Progressive, bien sûr, mais une évolution continue. On passe d'un système de monoculture de variétés standards. Faut pas oublier que c'est des variétés standards qui ont été sélectionnées pour la chimie. Strictement pour la chimie. On peut pas inscrire une variété au catalogue commun si elle n'est pas sélectionnée pour avoir des hauts rendements et dans un système réductionniste pour la chimie. Donc les paysans ne peuvent pas utiliser autre chose que ces variétés sélectionnées pour la chimie. On a des élevages spécialisés. Tout ça, c'est ultra mécanisé, donc sans main d'œuvre, avec peu de main d'œuvre, sans écosystème, évidemment soutenu par la chimie. Vous pensez bien que si on part de ce système-là et qu'on se contente de supprimer la chimie, c'est un système qui va s'effondrer. Il est construit pour la chimie. Donc quand on vous dit, on compare des rendements du blé conventionnel et du blé bio, c'est pas vrai. On compare des rendements du blé conventionnel et d'un blé conventionnel auquel on a retiré la chimie. C'est évident que le deuxième a de moins bon rendement. Ça ne prouve strictement rien sur ces rendements globaux. Et là, je vous renvoie sur ce qu'a montré Philippe Pointereau et d'autres tout à l'heure. Si on raisonne à l'échelle de la production biomasse, à l'échelle d'une parcelle en culture d'associés, c'est évident que le rendement en réalité est supérieur. Et puis on va aller donc vers des semences et des races, enfin semences paysannes, races locales, etc., en polyculture élevage, cultures associées, des arbres et des humains, très important, les humains, parce que la force de travail, c'est une énorme richesse dans une société de chômage de masse. Je suis toujours sidéré quand on nous dit que c'est un problème que l'agriculture biologique ou que l'agroécologie demande des emplois. Tant mieux. Mais en fait, c'est pas une continuité. Il y a obligatoirement une rupture. Parce que Et ça, c'est vraiment fondamental dans la mise en œuvre des politiques publiques. On ne peut pas raisonner en continuité. On a une succession peut-être de deux grandes continuités. D'abord, on va pouvoir commencer à réduire les techniques utilisées autour de la chimie par la substitution de produits. Exemple, en élevage, on va supprimer certains médicaments les plus dangereux, certains antibiotiques par exemple. On va éviter de mettre des antibiotiques dans la systématique dans les élevages de porcs et de volailles. Et on va les remplacer par des huiles essentielles, ou par de la phytothérapie, d'homéopathie, etc. Ça, c'est de la substitution de produits. Mais on peut aller beaucoup plus. À un moment donné, il faut aller un peu plus loin. On va avoir des substitutions de pratiques. Alors, je vais prendre un exemple qui n'est pas de l'élevage, mais qui est très parlant. C'est celui des grandes cultures. Enfin, ça renvoie un tout petit peu à l'élevage d'abeilles. Vous savez que les néonicotinoïdes, produits de traitement des semences, sont extrêmement terribles dans leur effet indirect et parfois direct sur les abeilles et sur les autres pollinisateurs. Bien, pour se passer de néonicotinoïdes, on va pas traiter les semences avec d'autres produits. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre des haies et des bandes enherbées. Parce que dans les haies et des bandes enherbées, vous avez des carabes qui mangent les limaces, et c'est les limaces qui mangent les semences. Donc, en réinstallant un écosystème, vous éliminez le problème. Vous n'avez pas besoin de traiter les semences. Donc là, on passe à une substitution de pratique. Et là, on est déjà à la limite de passer la rupture, qui est de construire un agro-écosystème. Et là, on peut avoir un recours occasionnel à la chimie. C'est finalement ce que Philippe Pointereau venait d'évoquer avant, dans ses 50% production intégrée, dans le scénario AFSER 2050. Production intégrée, c'est ça. On a changé de système. On est enfin passé à une agronomie cohérente au niveau systémique. Simplement, on s'autorise ponctuellement un peu de chimie. Et puis ensuite, si c'est vraiment cohérent, ben, on n'en a plus besoin. Alors, on a donc finalement deux grandes étapes. Une étape où on va réduire la chimie, mais il n'y a pas que l'aspect technique chimie, il faut pas oublier l'aspect taille des fermes. Dans une première étape, on peut déjà commencer par arrêter d'agrandir. Et puis, et ça c'est fondamental quand on va commencer à parler d'élevage, la notion de connexion entre les fermes. Dans un premier temps, il est inconcevable en élevage d'imaginer que des volaillers spécialisés, qui n'ont pas de surface, se mettent à cultiver eux-mêmes l'alimentation de leurs volailles. Il est impossible d'imaginer que les élevages ultra spécialisés deviennent du jour au lendemain des céréaliers et que les céréaliers ultra spécialisés deviennent du jour au lendemain des éleveurs. C'est pas le même métier. Il y a besoin, dans un premier temps, et ça a aussi été évoqué tout à l'heure, nécessité d'échanges, de coopération, d'articulation entre les systèmes. Et puis, à un moment donné, une fois qu'on a eu une rupture agronomique, qu'on a commencé à faire évoluer le cadre, mais là, et aussi les besoins, évidemment, de politique publique, on va pouvoir commencer à faire aller vraiment plus loin dans la construction, à l'échelle des fermes et des territoires, d'écosystèmes, mais aussi, évidemment, toute la question de l'économique et du social. C'est-à-dire que, dans des systèmes de conventionnels sans chimie, on peut imaginer de continuer à avoir des filières commerciales comme celles qui existent aujourd'hui dans l'agriculture conventionnelle. Mais si on veut aller vers des systèmes d'agroécologie, ou moi je préfère dire l'agriculture biologique, on est obligé de remettre en cause ces organisations-là parce qu'on est obligé de casser les filières verticales et de recréer une logique territoriale à l'échelle des filières de transformation, distribution, etc. Et donc on est obligé de revoir complètement la manière dont s'organise le monde de l'économie agroalimentaire. Et ça, évidemment, si on raisonne en conventionnel sans chimie, on n'a pas besoin de se poser la question. On peut vendre de la bio industrielle, entre guillemets, j'aime pas trop ce terme parce que ça reste de la bio pour l'essentiel, mais on pourrait avoir à l'avenir de la bio industrielle massivement dans les supermarchés. Je suis pas sûr que ce soit de l'agroécologie. Alors, je synthétise ça à propos de l'élevage. Trois grandes démarches par rapport à l'élevage. La question de la cohérence agronomique, donc qui rejoint tout ce que j'ai expliqué jusqu'à maintenant. La question de l'équité socio-économique, j'en ai dit deux, trois choses, et puis évidemment derrière la question des comportements alimentaires. Et sans m'étendre, je reviens sur ce qui a déjà été évoqué, il faut regarder les choses en face. Nous, consommateurs européens, et les agriculteurs européens, sont responsables de la destruction de l'Amazonie et de la misère des favelas. Si 12 millions de la population brésilienne aujourd'hui, 12 millions de Brésiliens sont comptés dans les 800 millions à 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui tous les ans, c'est bien parce que on a remplacé les emplois agricoles par des machines et de la chimie. Et aujourd'hui, c'est d'anciens salariés agricoles qui aujourd'hui croupissent dans les favelas. Et il faut pas, alors, je cible souvent sur la question de l'élevage laitier de l'Ouest, qui a déjà été évoqué, mais il faut pas se tromper, l'élevage allaitant, c'est-à-dire l'élevage à viande, fait illusion parce qu'on va dire oui, mais nos vaches, elles sont à l'herbe. Certes, mais les veaux qui sont nés de ces vaches, et c'est eux qu'on mange, hein, essentiellement, eux, ils sont engraissés dans des ateliers industriels en Espagne ou en Italie. Donc c'est bien parce qu'il y a des ateliers industriels que cet élevage existe. Donc il y a vraiment tout un élément à remettre à plat. Alors, avant de mettre la diapo, juste rappeler donc ce qu'a aussi évoqué Philippe Pointereau, et ça doit être pour moi le nerf d'une approche de reconstruction d'une autre agriculture en matière d'élevage, c'est de se rappeler qu'un ruminant, il est fait pour digérer des aliments à base de cellulose, donc de l'herbe, du foin, et par contre, les granivores, enfin les omnivores, enfin comme les monogastriques, en fait, comme les porcs et les volailles, peuvent manger, effectivement, du grain, etc. Et donc, il y a deux démarches complètement différentes. Dans le cas des ruminants, c'est assez simple. Dans le cas des porcs et des volailles, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va nous dire, il faut l'autonomie en protéines de la France. Alors, pour acquérir une autonomie en protéines de la France, on va nous dire, eh bien, il faut cultiver des légumineuses fourragères, remettre les animaux à l'herbe. Là, je suis complètement d'accord jusque-là. Souvent, on va nous dire il faut une complémentation alimentaire par du soja et du colza, mais qu'on va cultiver chez nous au lieu de le faire venir du Brésil. Ça, là, on est dans la substitution. Le passage à l'herbe des ruminants, c'est déjà un peu plus que de la substitution. Mais les deux autres logiques, on est dans la substitution. On continue à nourrir les animaux de la même manière, sauf qu'au lieu d'importer du Brésil, on cultive chez nous. Et en fait, aujourd'hui, les politiques publiques résonnent comme ça. On nous dit comment est-ce qu'on va produire suffisamment de légumineuses pour notre élevage. Ben, c'est une première étape. Mais à un moment donné, il faut aller à l'étape suivante, qui est de savoir, si on remet les vaches à l'herbe, par exemple, ben, on peut pas nourrir autant de vaches sur 40 hectares à l'herbe que sur 40 hectares de maïs, dont on rajoute 40 hectares de soja importé. Enfin, auquel on rajoute, plutôt. Donc, il va bien falloir, à un moment donné, penser à changer les systèmes. Alors déjà, juste pour rappeler, quand on va cultiver par exemple des légumineuses, on contribue aussi à la transition agroécologique des systèmes céréaliers. Parce que par exemple, des mélanges de céréales légumineuses, c'est un système couramment utilisé en bio, qui est typiquement un système de culture associée qui va dans le sens dont on parlait. L'élevage bocager, c'est également un système de culture associée remarquable. Des espèces nombreuses dans une prairie, des arbres autour, c'est formidable. Mais pour faire l'ensemble de ces transitions, on a besoin, bien sûr, des outils financiers. Donc ça, ça a été dit, hein, les aides européennes. Dans le contexte de la PAC, on n'a pas énormément d'outils, mais on peut en avoir quelques-uns. Des aides à l'équipement spécifiques. Il y a besoin d'une formation des agriculteurs, ça on l'a dit beaucoup. Et là, j'insiste aussi sur le fait que, si je parle d'agriculture bio tout à l'heure, c'est pas par hasard. C'est qu'à un moment donné, si on veut qu'il y ait du transfert de savoir de ceux qui pratiquent déjà l'agroécologie vers ceux qui ne la pratiquent pas encore, il faut savoir aller chercher le savoir où il est. Et où il est, c'est notamment dans les groupements d'agriculture biologique, c'est-à-dire chez les agriculteurs bio. Et puis, évidemment, mettre des moyens de recherche. Mais il faut forcément aller plus loin. Dans un deuxième temps, il faut avoir le courage de poser la question d'un remodelage beaucoup plus profond de notre système d'élevage, et ça rejoint tout à fait le scénario After 2050, et donc commencer par créer des synergies à l'échelle des territoires pour permettre à des fermes aujourd'hui volaillères hors sol de se fournir auprès de fermes céréalières, parce que ça peut être des issues de triage des céréales qui sont valorisées auprès, dans les élevages de volailles, par exemple. Idéalement, le porc ne devrait être qu'un sous-produit. Le porc devrait être un sous-produit de l'élevage laitier, par la consommation de butylait, ou l'élevage de légumes ou de céréales, pareil, dans la consommation des résidus. Et donc, en fait, on est obligé de passer à un moment donné à un changement d'échelle, enfin un changement d'échelle de pensée, parce qu'il y a aussi l'échelle de territoire, à un changement de façon, de mode de pensée, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de dire on va remplacer les protéines importées par des protéines européennes, il faut changer l'agro-système, c'est-à-dire reconstruire des systèmes de polyculture-élevage, reconstruire les paysages, des mosaïques paysagères, et il faut bien penser qu'en faisant ça, et ça aussi c'est l'intérêt d'une vision systémique, en faisant ça on redonne aussi aux paysans sud-américains du travail, une dignité et les moyens de se nourrir. Donc c'est loin d'être un problème purement français. Mais alors la conséquence de tout ça, ben oui, il faut bien la regarder en face, c'est que si on nourrit des vaches par exemple uniquement sur l'herbe présente en Bretagne, ben on aura moins de vaches laitières en Bretagne. Donc moi je ne pars pas comme le scénario After 2050 des besoins alimentaires des Français, mais j'arrive à la même conclusion à peu près. Moi je pars tout simplement de qu'est-ce que les surfaces françaises peuvent faire. Alors attention, hein, on va supprimer des animaux à certains endroits, on va réduire les élevages à certains endroits, mais on va en rajouter ailleurs. Parce que dans les grandes fermes céréalières, on va avoir besoin d'en rajouter des animaux. Et donc, voilà, on a différentes étapes où on peut commencer déjà par le pire, c'est-à-dire supprimer leur sol, passer à l'herbe et à des compléments produits en Europe, et puis à un moment donné, il va falloir se poser la question de l'autonomie des élevages et du remodelage régional. Et il faut bien penser que toutes les politiques publiques, c'est une chose aussi sur laquelle je voulais insister, toutes les politiques publiques qui sont menées en faveur notamment de l'agriculture biologique, parce que c'est elle aujourd'hui qui est l'horizon qui peut organiser cette transition vers l'agroécologie, toutes ces politiques publiques concourent toujours à améliorer l'ensemble de l'agriculture. J'ai souvent entendu dire « Ah mais oui, mais si on s'occupe des 20% de bio en 2020, qu'est-ce qu'on fait des 80% restants ?» Ben, ils sont complètement inclus dedans. Si on travaille à développer des semences paysannes, si on travaille à la recherche agronomique, agroécologique, si on travaille à adapter du matériel pour des récoltes, par exemple, d'un rang sur deux, des choses comme ça, tout ce travail-là, il est évident qu'il bénéficie à toute l'agriculture. Si on réforme la fiscalité du travail pour que les agriculteurs puissent enfin embaucher du personnel, que ça leur coûte pas beaucoup plus cher que les machines, comme c'est le cas aujourd'hui, tout ça, ça bénéficie bien sûr à tous les agriculteurs. Donc il n'y a aucune opposition dans cette démarche, et j'en arrive au bout parce qu'il faut conclure. Je vous remercie.